Le dernier Syrien, alors vous l'avez écrit quand exactement et pourquoi vous avez voulu écrire ce roman?
En fait, quelques mois après mon départ de la Syrie, et un ami, si tu veux, c'est un de mes meilleurs amis en Syrie, il était tué à Damas, mais à Al-Maïdan. Il s'appelle Laurence Noaimi, c'est son pseudonyme. Et on était proches à Homs, et c'est lui qui m'a montré comment je filme les manifestations, comment j'adapte ça comment je publie ça sur YouTube et l'envoyer pour les médias, etc. Il était très fort, le mec. Et quelques mois après mon départ, il était tué. En fait, les services d'enseignement, ils ont assiégé la maison, le domicile où il logeait avec plusieurs personnes. Et le paradoxe là-dedans, que je n'avais aucune vidéo de son cadavre. C'est lui qui m'a montré comment je filme les cadavres. Et quand il est mort, il était comme quelqu'un disparu. On ne sait pas où il est maintenant, tu vois. Et il n'y avait pas de même funérailles, etc. Ça m'a beaucoup touché cette histoire et j'avais besoin d'écrire sur lui, sur cette personne et sur tous les camarades, sur tous les gens avec qui je travaillais, ces jeunes qui ont donné tout pour la liberté, la démocratie de leur pays. Et aussi parce que bon, c'est la première raison, la deuxième raison, car ces jeunes, ils sont devenus un peu oubliés avec le temps. Parce que dans le média en général, soit le média arabe ou le média occidental, on parle, quand on parle de la Syrie, on parle depuis 2 années, depuis des années, on parle de Daesh ou du régime d'Assad. Et on parle plus de cette époque incroyable, cette époque de la révolution pacifique, cette époque du rêve, cette époque où tout était possible pour nous. Et je crois, le style romanesque aussi, il fixe. C'est-à-dire, il y a toujours l'archive aujourd'hui, heureusement. On a plusieurs sites pour la Syrie. Où tout est documenté, etc., pour cette époque pacifique. Sauf qu'il y a les histoires humaines qui sont très, très touchantes, les histoires d'amour, de l'amitié, etc., qui sont pas du tout documentées. Et je crois que le style romanesque est idéal pour documenter, pour archiver la mémoire de la vie, la mémoire de la beauté de la vie quotidienne, malgré la guerre et la violence. Alors c'est pour ceci que j'écris ce roman.
Dans ce roman, oui, on est plongé dans plein de problématiques, plein de situations que vivent ces jeunes. Et on rencontre l'homosexualité, le conflit, les jeunes qui vont manifester contre la vie de leurs parents. Au début, on a aussi des références à l'histoire avec ce calife, calife El Amin. Et puis ces histoires d'amour dont tu parlais.
Exactement, voilà, ça m'intéresse beaucoup parce que d'abord, le sujet de l'homosexualité existe en Syrie depuis, comme partout, comme depuis très longtemps, sauf que c'est toujours un sujet tabou, ce qu'aujourd'hui, bien qu'on est au 21e siècle. Et malheureusement, on n'a pas de livre aujourd'hui qui parle de l'homosexualité en Syrie. Et comme j'avais des amis homosexuels en Syrie, qui sont. Et je connais un peu l'histoire, le sujet de l'homosexualité, donc c'est un sujet qui m'intéresse. Comment et où les homosexuels ils se rencontrent, comment ils se débrouillent malgré les tabous de la société et la loi qui interdit l'homosexualité, parce qu'en Syrie, si on était arrêté autant au moins, on est emprisonné pendant 3 mois au moins, tu vois. Et aussi, donc, il y a un des personnages, deux personnages, disons, du roman sont homosexuels, sauf qu'ils sont pas barrés. C'est-à-dire qu'on a Youssef, qui est un des personnages principaux du roman. Il est 100% homosexuel, il est engagé dans la révolution. Il filmait les manifestations et les victimes. Et son amant, qui s'appelle Mohamed, qui est, disons, bisexuel, c'est-à-dire. Tellement il hésite qu'il est-ce que c'est bien ce qu'il fait ou pas, et en même temps il est contre ni avec la révolution, il sait pas. Donc Mohamed, il présente la partie des jeunes syriennes qui sont un peu perdus, tu vois. Et alors, comme il était un mec tellement isolé dans la société, il essaie de se réfugier dans la lecture. Surtout la lecture historique, parce que par une manière ou une autre, il trouve que ce n'est pas son époque aujourd'hui. Donc il vit un peu dans le passé. Et parmi ses lectures, il lit les histoires de l'homosexualité, surtout pendant l'époque abbasside, au 8e, 9e et 10e siècle. Et parmi ces homosexuels, il on trouve, donc ce que j'ai essayé d'intégrer dans le roman, des anecdotes, paraboles à la lecture de Mohammed. Par exemple, l'histoire de l'Oasiq avec son ami, son amant Kawthar. Et c'est-à-dire, l'Oasiq, il annonce que c'est son amant, il crée la poésie pour Kawthar, t'es connu, t'es amoureux, etc. Et c'était pas interdit quand même, tu vois. Et Mohammed, il se demande tout le temps pourquoi c'est devenu interdit plus tard dans notre époque. Voilà. Donc c'est un paradoxe dans la société syrienne, c'est-à-dire, il y a pas mal des. C'est-à-dire, l'homosexualité existe dans cette société et à la fois elle est interdite. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de ce sujet dans le roman.
Et aussi, donc c'est des personnages donc inspirés de la réalité, du début de la Révolution.
Oui, en fait, ce sont des personnages inspirés des vrais personnages. C'est-à-dire, toutes les histoires abordées dans le roman sont des vraies histoires. Les personnages, disons, c'est un roman d'inspiration autobiographique. Donc tout ce que j'ai vécu en Syrie, ou les gens que je connaissais qui ont vécu, entre mars 2011 et mars 2012, jusqu'au moment quand je suis sorti de la Syrie, j'ai raconté dans ce livre.
Et oui, et il y a les femmes aussi, dans les amis, comme Sarah, qui sort manifester. Et justement, Mohamed, parce qu'il est fiancé avec Sarah, et il dit mais elle est folle, elle me fait peur. Et lui, il est plutôt dans la peur, dans la retenue. Qu'est-ce qui motive Sarah à aller même peut-être à Douma, où on sait que c'était très dangereux dès le début de la révolution?
C'est vrai. En fait, Sarah était tellement engagée dans la révolution. Et Mohammed, il se demandait tout le temps c'est quoi le résultat, surtout dans ses mails envoyés à son amant Youssef. Et comme Mohammed, il était, disons, il avait un amant qui s'appelle Youssef, il était fiancé avec Sarah, donc il était un peu perdu. Sauf que Sarah, elle était engagée dans la partie, disons, radicale de ces mouvements, qui ne présente pas la vraie révolution, la révolution pour la démocratie et la liberté. D'ailleurs, Joséphine, l'héroïne du roman, ou l'icône de liberté, de l'espoir, de la force des jeunes Syriens, elle présente le vrai rôle des femmes pendant cette révolution. C'est-à-dire, c'est elle qui regroupe, qui rassemble les jeunes autour d'elle, elle organise les manifestations, même elle exfiltre parfois des militants qui étaient demandés par le régime, ce que j'ai vécu personnellement, tu vois. Plusieurs femmes avec qui je travaillais, elles étaient tellement courageuses, elles transfèrent des médicaments, elles exfiltrent les militants de parabole checkpoint, elles organisent des manifs, etc. Donc Joséphine, elle présente tout ça, elle représente tout ça. Et malheureusement, alors, on ne parle pas beaucoup du rôle des femmes pendant la révolution, bien que c'était un rôle plus important à mon avis que le rôle des hommes. Alors Sarah, elle est engagée avec un groupe des militaires islamistes. Et petit à petit, elle trouve à quel point c'est violent, c'est pas bien ce qu'elle a fait, etc. Et elle rentre à Damas, elle se sépare avec Mohammed et elle se marie avec un de ses proches. Et elle reste à la maison. Disons, c'était se marier un peu obligatoire par rapport à son père. Ouais.
Chaque personnage incarne aussi la jeunesse syrienne, avec toutes leurs interrogations, leurs engagements à un moment donné, et aussi ce qu'on ressent depuis le début, et ça c'est une question qui revient souvent, enfin je sais avec des amis syriens on en discute aussi, c'est cette volonté aussi d'une partie de la jeunesse dès le début qu'on dit non, il faut que ce mouvement reste pacifiste. Et c'était ça la grande question du début et les grands débats qu'il y avait dans différentes assemblées. Là vous allez pouvoir nous parler du centre, ces fameux centres où il y avait des discussions, où nos amis syriens qui après nous ont raconté, où il y avait ces discussions dès le début, et qui là maintenant disent, nous on n'a pas eu le choix de cette armée syrienne libre qui s'est constituée, du drapeau de l'armée syrienne libre qui nous représentait désormais. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qui se sont passées.
En fait, c'est une grande question, tellement difficile, qui était, comme vous avez dit, qui était proposée dès le début. Mais comment on peut lutter contre un régime fasciste sans utiliser des armes? Et si, c'est quoi le risque d'utiliser des armes? Alors, utilisant les armes en Syrie, c'est-à-dire on va petit à petit entrer dans une guerre civile. Parce que la Syrie est un pays séparé depuis l'année 63, surtout après l'arrivée de Hafez al-Assad au pouvoir en 70, était séparé entre des alaouites et des sunnites. Même dans la même ville, parfois, par exemple à Homs, Hafez al-Assad a séparé la ville à deux, moitié alaouite, moitié sunnite. Et les alaouites, la plupart bardo, ils soutiennent le régime parce que, pour plein de raisons, parce qu'ils ont peur, ils sont une minorité en Syrie, etc. Et alors, utiliser des armes par rapport aux sunnites, c'est-à-dire, on va faire une guerre contre les alaouites par une manière ou une autre. Et les alaouites sont déjà armés. Comment on peut sortir, comment on peut renverser le régime sans faire une guerre civile? Et prendre des armes, ça augmente encore la violence, parce que c'est un régime fasciste, un régime va utiliser des armes jusqu'au bout, et on le savait. Et en même temps, comment on peut continuer une révolution pacifique contre un régime tueur? Il n'y a pas de solution. Alors personnellement, je ne peux pas accuser l'armée libre. Je ne peux pas dire que c'était une erreur de prendre des armes, parce que j'ai vu à quel point ce régime, il massacre les civils. Et en même temps, je ne peux pas dire que je suis avec les armes. Je crois qu'il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas d'autres raisons. Il y avait une seule solution. S'il y avait, ce n'était pas par rapport aux Syriens, c'était de l'extérieur. Un attaque contre ce régime, un attaque contre Bachar al-Assad, parce que la France était à deux pas de le faire en 2013, sauf qu'ils ont annulé tout au dernier moment à cause des Américains, parce que les Américains avaient peur qu'après le départ d'Assad, il y aura du vide en Syrie, on ne sait pas, etc. Et voilà, donc il y avait une seule solution, c'est ce qu'on a espéré en fait au début de la révolution. C'est pour ça qu'on a fait tout, c'est pour ça qu'on a filmé, c'est pour ça qu'on voyait tous ces reportages de l'extérieur, parce qu'on vivait dans une illusion à l'époque, c'est ce ne sera pas possible de vivre au 21e siècle et il y a un régime policier qui massacre son peuple face au monde entier et... Tout le monde garde le silence. Par une manière ou une autre, ils vont interroger et attaquer Bachar al-Assad. Sauf que c'était l'illusion, c'était pas vrai. Parce que si, c'est possible au XXIe siècle. Parce que la solidarité humaine internationale n'existe pas. Ça existe seulement selon l'avantage. Et comme les Occidentaux n'ont pas d'avantage en Syrie, ou ils n'avaient plus d'avantage en Syrie, d'intérêt, bon, exactement, ils n'avaient plus d'intérêt en Syrie, ils n'ont pas interrogé. Ce qu'on a vécu, alors les Américains ont quitté la Syrie en 2013, en 2015. Les Américains et les Français et tout le monde ont quitté la Syrie pour les Russes parce qu'il y avait un sort d'accord, je ne sais pas ce que c'est. Et ils s'en foutent en fait, les politiciens s'en foutent de sang des Syriens quand même, et des peuples en général bien sûr. Donc prendre des armes, c'était pas une bonne idée, mais il n'y avait pas d'autre idée peut-être.
Et c'était quoi justement les discussions que vous aviez là, le centre dont vous parlez, il était où exactement?
C'était un vrai centre en fait, c'était vrai, c'était dans la vieille ville de Homs. Alors ça n'existe plus malheureusement, toute la vieille ville de Homs n'existe plus, c'est au côté des ruines. Moi, mes parents, je vivais à Al-Khaldiyeh, dans un quartier de la vieille ville, pendant mon étude à l'université de Homs. Ce centre était dans la vieille ville et il y avait un appartement au rez-de-chaussée, on l'a transformé comme un hôpital, parce qu'on n'avait pas un vrai hôpital. On avait un jardin dans la vieille ville, on l'a fait comme un cimetière parce qu'on n'avait pas une vraie cimetière. Et la vieille ville était assiégée pendant... Moi j'y étais, j'étais à la vieille ville d'Homs entre septembre 2011 jusqu'à la fin de 2011. Alors tout ce qui se passe dans ce centre, dans le roman, est inspiré par rapport à les histoires dont j'ai vécu en Syrie. Voilà. Mon travail à l'époque, c'était filmer les victimes et envoyer les vidéos pour les chaînes à l'extérieur. C'était le travail de Youssef dans le roman. Et on avait en fait... Ce qui était incroyable pendant cette époque, c'est qu'on était... Vraiment, on a vécu des moments incroyables d'amour, de solidarité. On était un beau vivant quand même, tu vois. C'est-à-dire, bon, je parle pas de moi, je parle des jeunes là-bas étaient vraiment vivants, car malgré ce qu'on a inspiré pour la couverture de la bande, nous sommes vivants malgré les ruines qui nous entourent. C'est mon éditrice qui l'a choisi, elle a raison. Ces jeunes étaient vraiment vivants. Je crois qu'il y a une sorte de paradoxe aussi. Quand on vit dans le danger, quand on risque de mourir par une manière ou une autre, dans un moment ou un autre, du jour au lendemain, on vit chaque moment, on profite de chaque moment. Si on est amoureux, on est amoureux à fond. On est amis à fond. Et à cette époque, je me souviens très bien qu'il y avait une sorte de solidarité incroyable entre les gens. C'est-à-dire les maisons, l'argent, la nourriture, les voitures, c'était pour tout le monde. Il n'y avait pas à moi et à toi parce qu'on n'a pas le temps pour avoir l'égoïsme. Après, malheureusement, tout a changé, quoi, tu vois. Parce que la guerre, quand elle continuait, elle créait une sorte de violence incroyable. On devient petit à petit des sauvages. Et je pense que la plus grande victoire après ou pendant une guerre, c'est garder l'humanité, tu vois, c'est garder son humanité. Et ce n'est pas facile. Donc ce centre était vrai, était basé à la vieille ville.
Oui, quand vous étiez encerclé, là justement, oui, c'était en 2000, de 2011 à début 2012. Comment se passait la vie? Comment on arrive à se nourrir pendant ces moments de siège?
En fait, à l'époque, il y avait des chemins. Il y avait une rue qui s'appelle la rue de la mort. C'est la seule rue où on peut sortir de la vieille ville vers le Khaldiyeh et en plus faire ce qu'on appelle Tariq Hama, la rue de Hama, et vers la nouvelle ville pour acheter de nourriture et pour tout ça. Et ce qui aussi était paradoxal, dans la journée, il n'y avait pas de guerre. C'est-à-dire c'était calme. Ce que j'essaie aussi de raconter dans le roman, à quel point les gens. Il se débrouille malgré la violence, malgré la guerre. Cette rue, pourquoi s'appelle d'abord la rue de la mort? Car il y avait deux checkpoints sur les deux côtés, sur un des deux côtés. Il y avait un sniper sur ces checkpoints. On ne sait pas, il va tirer vers qui? C'est-à-dire, on traverse cette rue. S'il avait envie de tirer, il va tirer, il va nous tuer ou blesser, on ne sait pas. Ou pas. Donc, chaque jour, il y a un risque qu'on va mourir. C'est tellement paradoxal et incroyable. Comment on vit à côté de la mort? Mais on était obligé de traverser cette rue, sinon on va mourir de la faim, quoi, tu vois. Aller-retour, tous les jours. Et dès qu'on arrive vers l'autre côté, on a l'impression comme si on a refait notre naissance. C'est incroyable comme sentiment. Et c'est pour ça qu'on était vivant, disons. Voilà, c'est comme ça les gens arrivent à vivre, c'est-à-dire ils vont vers l'autre côté, vers la nouvelle ville, où la vie continuait. Ils achètent leur nourriture, lorsqu'ils ont besoin, et ils reviennent. À partir de 19 h, personne ne peut sortir chez soi. Personne dans la ville. Voilà. Parce que c'est très, 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 très dangereux.
Ben c'est dans ces moments-là aussi qu'il y a eu un rapprochement entre des gens qui ne se seraient pas connus, qui se seraient pas connus avant. Quand
Oui,
on
c'est
parle
vrai.
de... C'est Adèle?
Adèle, oui, c'est le
Adèle.
meilleur ami de Youssef.
Voilà, Adèle, chauffeur de taxi, qui voyait passer Youssef tous les jours aller à la fac. Et finalement, ils étaient étonnés mutuellement de participer
Justement.
à la révolution.
Parce qu'Adèle, elle représente les gens, les hommes syriens, sont simples, n'ont pas continué leur étude. Ils étaient éduqués dans des rues populaires et ils ont beaucoup de fidélité. En fait, c'est surtout à Homs. Vous voyez, j'ai inspiré le personnage d'Adèle d'un vrai personnage dont je connaissais aussi Homs, qui était tué finalement. Et c'est vrai, en fait, d'ailleurs, c'est une vraie histoire à quel point cette révolution nous a permis de faire notre connaissance. Parce qu'auparavant, ce régime nous séparait. On n'avait pas un vrai lien entre les classes sociales, entre les niveaux de la société. Vous voyez, la classe moyenne, on peut dire, et les gens qui n'ont pas continué leur étude, etc. Parce qu'il n'y avait pas d'association en Syrie pour faire ces connaissances. Comment on peut contacter quelqu'un? Il n'y avait que la mosquée. Vous voyez. Alors pour les gens qui n'ont pas croyants, il n'y a pas de moyens. Alors, cette révolution, ces manifestations, personnellement, ça m'est arrivé. C'est-à-dire, on ne sympathisait pas avec certains gens et on ne sait pas pourquoi, dans les rues. Cette manif, dès qu'on voit quelqu'un, ah oui, toi aussi tu es engagé, ah, moi aussi, tout ça crée un lien très fort, un lien de solidarité. Parce que face à ce régime sauvage, fasciste, on avait besoin de la solidarité entre nous, afin de créer une sorte de force contre lui. Ce qu'il est arrivé à Adèle et à Youssef, c'est-à-dire ils se sont rencontrés pendant les manifs, bien qu'ils n'étaient pas du tout amis, ou presque ennemis, avant la révolution. Et pendant la révolution, pendant cette manif, à partir de cette manif, ils sont devenus des meilleurs amis tous les deux. Donc Adèle était le meilleur ami, l'ami le plus proche de Youssef. Elle organisait les manifs tous les deux. Et Adèle, elle était un homme de solidarité qui a perdu son petit frère au début du mouvement. Elle soutenait tout le monde, elle aidait tout le monde. Et finalement, elle était tuée malheureusement. Oui.
Là, aujourd'hui, vous avez encore des contacts avec des amis sur place, avec
Aujourd'hui, j'ai aucun contact avec des amis sur place parce que j'ai aucun ami sur place. Les amis dont je connaissais en Syrie, soit étaient tués, soit emprisonnés, disons tués, parce que la plupart des gens emprisonnés étaient disparus, je ne sais pas où ils sont, soit ils sont à l'extérieur de la Syrie. Mais la plupart d'eux, ils sont disparus. Et voilà, de contact, j'ai certains contacts avec des Syriens à l'extérieur, mais pas des gens avec qui j'y étais.
Donc tous les gens dont du roman.
La plupart d'eux étaient morts et les restes sont à l'extérieur de la Syrie.
Et c'est quoi votre rapport à votre pays aujourd'hui ?
La Syrie aujourd'hui est un pays vendu et c'est pas nouveau quand même, tu vois. Le régime était dès le début prêt de transformer la révolution d'une révolution pour des demandes, pour la liberté, pour la démocratie, à une révolution pour exister, pour la vengeance, c'est-à-dire seulement garder sa vie. Ça, c'est très, très risqué, très dangereux. C'est pour ceci qu'il a vidé la Syrie des militants démocrates, soit ils étaient tués, soit ils les chassaient, et les a remplacés par les islamistes, dès le début. Et petit à petit, donc la révolution est devenue une guerre, disons, une guerre civile. Alors, le régime a vendu ce pays pour les Russes et pour les Turcs et pour les Iraniens. Aujourd'hui, on trouve par exemple cette dernière guerre au début de cette année, c'était entre les Russes et les Turcs. C'était tellement ridicule à quel point ils négocient entre eux, ils décident entre eux l'avenir de la Syrie. Et ça fait des années quand même, mais là, c'est très clair que les Syriens sont hors de spectacle. C'est-à-dire que le régime n'existe pas. Le régime, c'est un soldat chez ou un agent pour les Russes. On peut dire ça. Et les islamistes sont des agents pour les Turcs. Et le régime, c'est pour les Russes et les Iraniens. Alors, l'avenir de la Syrie, je trouve que la Syrie est un pays occupé et séparé pour plusieurs pays et occupé par les autres. Et l'avenir de ce pays, personnellement, je garde toujours l'espoir. Parce que je crois qu'il y aura une nouvelle génération qui viendra, mais beaucoup plus tard, et continuer ce grand, le grain de la liberté, le grain de la démocratie. Mais cela, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'une époque qui passera. Sauf que notre génération, nous, il ne va pas voir, je ne crois pas qu'il va voir la Syrie comme un pays libre.
Mais il y a de l'espoir quand même. Oui. Eh ben, oui, et il faut l'envoyer, cet espoir, à toutes les familles syriennes là, qui sont chassées de la province d'Idleb et qui se retrouvent face au mur turc. Là, toutes nos pensées vont vers eux. Ils vivent sous des oliviers, il fait froid et personne ne vient les aider. Ça, c'est dur d'entendre ça, de voir qu'ils sont face aux murs turcs. Ils sont chassés de leur terre et de leur maison, c'est ça aussi. C'est exproprier les gens.
C'est une épreuve pour que la solidarité internationale n'existe pas sans intérêt. Parce que les Turcs, ils utilisent ces réfugiés, ils utilisent ces migrants pour leur avantage, voyez, c'est-à-dire ils ouvrent parfois les frontières, ils menacent les Turcs. C'est-à-dire nous, on est des cartes des menaces, tu vois, des cartes à jouer. Et ils menacent les Européens par les Syriens, ou ils gardent les Syriens pour après, etc. Il n'y a rien à dire, c'est la honte. C'est la honte internationale, c'est la honte mondiale, on peut dire ça.
Et est-ce que vous pensez que vous allez un jour pouvoir retourner ou pas ?
Alors, moi, ça fait 8 ans que je n'ai pas vu ma famille, ils sont tous là-bas. Mon père est mort il y a 12 ans et demi, à peu près, en 2017. Ma mère vit dans une ville à côté de Damas avec mon petit frère. Et ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, même pas parlé à ma mère par le téléphone. Tous les téléphones sont surveillés. Et oui, j'espère que j'aimerais bien revenir en Syrie un jour seulement pour voir ma mère. C'est pas pour... Parce que la Syrie, les géographiques de la Syrie, où on était éduqué par exemple à Homs, n'existait pas. Non, il existe encore de la mémoire. Les gens en Syrie sont plus en Syrie. Donc qu'est-ce qu'il reste de la Syrie ? Il ne reste rien pour moi. Il reste comme ma mère.